Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance.
Nos choix ont une influence sur notre corps au final, parce que c'est nos choix qui vont influencer sur nos actes et donc sur notre corps. On pourrait parler de sa propre expérience et du libre arbitre, puis on pourrait venir à Aristote et qui dit qu'on est responsable de tous nos choix. Voilà.
Bien qu'elle ne soit pas en mesure de nous donner avec certitude la réponse aux doutes qui nous assiègent, peut tout de même suggérer des possibilités qui élargissent le champ de notre pensée et délivrent celle-ci de la tyrannie de l'habitude. Tout en ébranlant notre certitude concernant la nature de ce qui nous entoure, elle accroît énormément notre connaissance d'une réalité possible et différente. Elle fait disparaître le dogmatisme quelque peu arrogant de ceux qui n'ont jamais parcouru la région du doute libérateur, et elle garde intact notre sentiment d'émerveillement en nous faisant voir les choses familières sous un aspect nouveau. L'équipe des Nouveaux Chemins repasse toute cette semaine le bac philo et élargit elle aussi le champ de la pensée. Marianne Chassor, Antoine Ravon, David Pargamin, Lucie Tardy, sans oublier bien sûr Adèle Van Rett, avec cette semaine à la lecture des textes Fabien Wolfrom, à la réalisation Nicolas Berger et Véronique Villa, et à la prise de son Marcos Darras et Stéphane Poitvin. Chers élèves, si vous vous apprêtez à passer le bac, cette semaine sur France Culture est pour vous. Et si vous vous apprêtez à passer l'épreuve de philosophie, ces émissions sont pour vous. De quoi affronter la méthode de la dissertation, celle de l'explication de texte, de quoi vous armer pour fournir les meilleurs exemples, élaborer les problématiques les plus pertinentes et les plans les plus redoutables. Mais ces émissions sont aussi pour vous, chers anciens élèves, qui gardez un souvenir nostalgique ou amusé de votre découverte en terminale de la philosophie, si chaque année vous scrutez avec impatience les sujets tombés le jour J en vous demandant lequel vous auriez choisi. De quoi, pour vous tous, vous montrer les choses les plus familières sous un aspect nouveau. Car cette semaine, quatre professeurs passent à nouveau le bac philo. Lundi, Flavie Garnier-Sacré traitait ainsi « L'État doit-il maintenir l'ordre ou assurer la justice ?» Hier, mardi, Ligeia Saint-Jean expliquait un texte du système des Beaux-Arts d'Alain. Et demain, ce sera Clémentine Gourdon qui analysera un extrait du Monde comme volonté et comme représentation de Schopenhauer. Mais aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Schauder, professeur au lycée Jean Prévost de Montivilliers, qui va s'attaquer au micro et face à ses élèves au sujet « Mon corps m'appartient-il ? » Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour Géraldine, bonjour à tous.
Et merci et bonjour à vos élèves.
Disposer de nos corps, j'allais dire certes, bien sûr, ça paraît même énorme que en 80 en France on est à dire abolissez le servage pour les femmes puisqu'il est aboli pour les hommes. Mais ce que je veux dire c'est que les femmes, et c'est ce qu'on entend faire dans ce colloque, en plus d'un corps elles ont une raison, elles ont un cœur, elles ont une sensibilité et elles ont une histoire. Parce qu'il faut bien dire que la chose fondamentale dans cette histoire de disposer de nous-mêmes, c'est avorter, c'est un recours, à la limite il faudrait ne jamais avorter, mais c'est que vous nous donniez vos antennes tous les jours pour parler de la contraception, pour dire aux femmes, n'avortez pas, voilà ce qu'il faut faire pour être libre et responsable.
Vous n'avez pas peur que tout ce battage mette plutôt l'accent sur la femme objet, la femme de consommation, plutôt que sur la mère de l'enfant, quoi?
Je vois pas du tout là. S'appartenir, c'est devenir sujet, c'est même le contraire d'objet. S'appartenir, c'est devenir adulte, c'est être responsable, c'est être libre. C'est choisir de mettre au monde des enfants, bien, et dans un monde qu'on va changer. C'est à la fois continuer le monde, mais en le changeant.
Thomas Chauder, on a dans cette archive de Gisèle Halimi, qui date de 1979, Gisèle Halimi, avocate, féministe, on a ici la problématique que pose le sujet « Mon corps m'appartient-il ?», à savoir, avec ce terme d'appartenir, est-ce que le corps est un objet ou un sujet ? Est-ce que c'est la première chose qui peut tout de suite venir à l'esprit de l'élève face à ce sujet, Thomas Chauder ?
Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait la première chose qui va venir à l'esprit. J'ai l'impression que la première chose, c'est que le sujet pourrait lui paraître un peu redondant. C'est-à-dire que il paraît totalement évident que mon corps m'appartient, que j'en suis le propriétaire et que je peux en user et en abuser comme je l'entends. Mais ce que l'archive avec Gisèle Halimi nous montre, c'est aussi l'aspect tout à fait polémique de ce sujet. Je pense que les élèves ne devraient pas, laisser de côté cet aspect polémique et éviter de rentrer dans une véritable discussion, y compris une discussion morale, voire même politique.
En quoi c'est une question polémique ? Parce qu'a priori, quand on tombe sur ce sujet, mon corps m'appartient-il ? On a peut-être plus envie de faire intervenir une expérience personnelle qu'une dimension polémique et politique.
Tout à fait, sauf que cette dimension personnelle dont vous parlez, elle peut être prise sous différents aspects. Effectivement, comme le dit encore une fois Gisèle Halimi, disposer de soi-même, c'est pouvoir faire ses propres choix, c'est être libre. Donc, de ce point de vue-là, il n'y aurait rien à redire. Mais d'un autre côté, cela veut dire que je peux user de mon corps, et voire même en abuser, y compris donc lui faire du mal, y compris le louer, y compris le détruire, y compris l'amoindrir, etc. Et là, on se rend compte que même d'un point de vue existentiel, sans même rentrer dans une discussion politique, cela pose différents problèmes. Après, pour ce qui s'agit de la discussion morale et politique, on voit bien aujourd'hui, dans des exemples d'actualité, comme le débat sur l'euthanasie par exemple, comme le débat récent sur la pénalisation de la prostitution et des clients des prostituées, ou encore le débat un peu plus ancien, mais qui finalement n'est toujours pas réglé pour un certain nombre de personnes, dont parle Gisèle Halimi, le débat sur l'avortement. Tous ces exemples nous montrent bien qu'il s'agit à la fois d'une question existentielle, mais aussi d'une question qui renvoie à l'image que la société se fait d'elle-même.
Alors voilà les différentes dimensions que l'élève peut avoir en tête après quelques réflexions autour de cette question. Comment va-t-il procéder ? Comment va-t-il découper ce sujet, le décortiquer ? Quel est le terme qu'il va définir en premier ? Peut-être soit appartenir, comme on l'a vu, ou peut-être corps, mais alors là, il risque peut-être d'être un peu trop vaste et de juste restituer un cours sans anglais et sans problématiser son sujet.
Tout à fait. Moi, je dis toujours à mes élèves de commencer, en fait, par les termes qui ont l'air, a priori, les plus faciles. Donc, ici, le problème serait qu'il n'y a aucun terme particulièrement difficile, en fait. Mais peut-être le verbe appartenir serait le plus simple à définir en premier lieu. Donc, appartenir signifie être la propriété. Et par conséquent, on voit déjà se distinguer implicitement la distinction entre le sujet et l'objet. Et appartenir, c'est être l'objet au service ou en possession d'un sujet. Rien que là, on a déjà une distinction conceptuelle importante, celle du sujet et de l'objet. Ensuite, s'il faut parler du corps, on comprend, le terme de corps effectivement est très polysémique, mais on comprend, étant donné que l'adjectif possessif mon, donc c'est mon corps, donc le corps d'un être humain en règle générale, la partie matérielle de l'être humain. On verra que cette partie matérielle, à quoi est-ce qu'elle s'oppose. Et donc l'être humain en général, et en particulier le sujet qui est en train de se poser la question, qui est en train de rédiger la dissertation. Et donc il y a un aspect tout à fait personnel qu'il faut aussi prendre en compte, ne serait-ce que quand on cherchera des exemples dans le développement.
Quelle va être la problématique que vous proposez, Thomas Chauder, à partir de ces définitions, si tant est que l'on ait fini ce travail premier de définition.
Alors, une fois qu'on a trouvé la définition des termes, on voit ici que ça ne pose pas de problème particulier, et qu'on a bien réfléchi aux enjeux, comme on l'a dit tout à l'heure, j'aborderai la problématique sous deux angles différents. D'un côté, d'un point de vue épistémologique, on pourra se demander s'il est pertinent de distinguer le sujet de son corps, hein, le sujet pensant, celui qui est en train de réfléchir et de rédiger, de son corps qui serait donc un objet. Voilà du point de vue épistémologique, et du point de vue moral d'un autre côté, on se demandera non pas s'il est pertinent, mais s'il est légitime de considérer son propre corps comme un objet, comme son objet, comme sa propriété.
Il n'y a rien que la nature m'enseigne plus expressément, ni plus sensiblement, sinon que j'ai un corps qui est mal disposé quand je sens de la douleur, qui a besoin de manger ou de boire quand j'ai les sentiments de la faim ou de la soif, etc. Et partant, je ne dois aucunement douter qu'il n'y ait en cela quelque vérité. La nature m'enseigne aussi, par ses sentiments de douleur, de faim, de soif, etc., que je ne suis pas seulement logé dans mon corps, ainsi qu'un pilote en son navire, mais outre cela, que je lui suis conjoint très étroitement et tellement confondu et mêlé que je compose comme un seul tout avec lui. Car si cela n'était lorsque mon corps est blessé, je ne sentirais pas pour cela de la douleur. Moi qui ne suis qu'une chose qui pense, mais j'apercevrai cette blessure par le seul entendement, comme un pilote aperçoit par la vue si quelque chose se rompt dans son vaisseau. Et lorsque mon corps a besoin de boire ou de manger, je connaîtrai simplement cela même, sans en être averti par des sentiments confus de faim et de soif. Car en effet, tous ces sentiments de faim, de soif, de douleur, etc., ne sont autre chose que de certaines façons confuses de penser qui proviennent et dépendent de l'union et comme du mélange de l'esprit avec le corps. Thomas Schoeder, je viens de lire un extrait des méditations métaphysiques de Descartes. C'est un extrait de la sixième méditation. Le sujet « Mon corps m'appartient-il » et la problématique que vous avez dégagée nous conduisent vers cet auteur incontournable dès la terminale qui est Descartes et qui permet de penser le rapport entre le sujet et le corps de manière séparée, mais aussi en fait de manière étroite. Un dualisme en fait qui penserait la relation entre le corps et l'esprit. C'est peut-être une chose que l'élève pourrait développer dans sa première partie.
Alors, tout à fait. Descartes est effectivement un auteur dont on parle à plusieurs reprises pendant l'année de terminale. Alors, on nous dit toujours qu'il n'y a pas de référence obligée au bac de philosophie, mais je pense que Descartes non seulement est accessible, mais en plus est très utile pour réfléchir sur ce sujet. Mais peut-être il ne faudrait pas commencer directement par Descartes, mais y aller progressivement, parce que Descartes, on y reviendra, développe une vision qui est déjà assez nuancée. Peut-être faudrait-il d'abord partir de l'évidence, hein, de l'évidence, de ce qu'on a l'impression de savoir spontanément sur ce sujet. Et comme on l'a dit, ce qu'il paraît évident, c'est que mon corps m'appartient. C'est l'évidence du sens commun. Le corps m'appartient, il m'appartient même sous la modalité de l'instrument. C'est-à-dire qu'il me sert à percevoir le monde extérieur, hein, par l'intermédiaire notamment de mes cinq sens, qui me permet ensuite de réagir en fonction des informations que je reçois de cette façon, et qu'il est donc un instrument de survie, hein, nutrition, motricité, etc., ou même aussi un instrument de communication grâce à la parole ou par les gestes. Et enfin, ce qui rajoute encore dans cette idée du corps instrument, c'est que mon corps est ce qui obéit à ma volonté, ce qui obéit aux ordres d'une certaine façon. Quand je tends le bras, ce n'est pas mon bras qui décide de lui-même de se tendre, il s'agit de ma volonté.
Tout dépend si on a un réflexe.
Sauf si on a un réflexe, effectivement, mais on reviendra sur le fait que nous ressentons en nous bel et bien quelque chose de très différent, en fait, quand nous avons un réflexe ou quand nous faisons un effort, comme le dit Maine de Biran dans les essais sur les fondements de la psychologie. Maine de Biran dit que le sentiment de l'effort, c'est par là que je prends conscience qu'il y a une différence entre moi, cause du mouvement, et de l'autre côté, mon corps, c'est-à-dire mes muscles, mes nerfs, qui opposent une forme de résistance à cette volonté, et qui nécessite du coup un effort, donc une tension qui va se jouer en moi. Et un jeu, d'une certaine façon, entre la volonté d'un côté et son exécution de l'autre. Et Maine de Biran, de ce point de vue-là, essaie de mettre le doigt, d'une manière tout à fait phénoménologique, sur ce que nous vivons, la manière que nous avons de vivre notre corps, en distinguant d'un côté une instance d'exécution, qui sont nos membres et nos organes, et de l'autre, une instance de décision, qui serait notre esprit ou encore notre conscience.
Mais le problème, c'est que Maine de Biran, déjà, n'est pas une référence forcément évidente pour un élève de terminale. En revanche, ce que vous venez de dire peut être formulé de manière effectivement très ordinaire, et c'est une expérience, j'entends par là, que tous les élèves ont rencontré, cette différence entre quelque chose, un geste que l'on exécute. Mais en revanche, l'idée du réflexe que je vous objectais, c'est que à ce moment-là, on peut contredire l'idée que le sujet est maître de son corps avec cette idée que le corps parfois nous dépasse. Donc il y a les réflexes, il y a le fait que l'on vieillisse alors qu'on aimerait rester jeune, que le corps se déforme, etc. Et ça, c'est peut-être une manière d'avancer dans cette première partie.
Tout à fait. Je le disais, l'évidence doit, c'est tout le principe de la philosophie, l'évidence doit être remise en question. Et nous allons tout de suite développer, du coup, le point de vue du dualisme, c'est-à-dire de la distinction en l'homme entre deux substances, sa pensée d'un côté et son corps de l'autre. Et ce que nous apprend le dualisme, c'est d'abord que esprit et corps ont chacun une vie autonome, comme vous l'avez dit. Hein, il y a les réflexes, il y a le vieillissement, il y a la maladie, etc. Vie autonome du corps et de l'autre, vie autonome de l'esprit. Hein, quand je pense, quand j'imagine, je ne fais pas usage de mon corps, je fais usage purement de mon esprit. Et dès l'Antiquité, cette distinction a amené un certain nombre de penseurs à privilégier la vie spirituelle sur la vie corporelle. On peut penser, par exemple, à Platon. On peut aussi penser à la théologie monothéiste, hein, essentiellement judéo-chrétienne, qui associe d'un côté cette vie autonome du corps à une vie animale, et qui fait donc du corps le siège des fonctions basses et l'origine du péché, hein, de la corruption, qui du coup en fait la partie mortelle, la partie, comme on le dit, corruptible. De l'autre côté, il y aurait l'esprit ou encore l'âme, qui serait immortel, don de Dieu, et qui est associé aux fonctions nobles que sont la réflexion, la pensée, l'imagination, et enfin le corps serait cette prison de l'âme, et l'âme aspirerait à s'échapper de ce corps pour aller dans une vie supérieure.
C'est là où Descartes peut nous être utile, Thomas Schoeder, parce que précisément si l'âme et le corps, l'esprit et le corps sont si à ce point séparés et différents, Descartes, au contraire, bien qu'il pense ce dualisme, va quand même penser une relation entre ces deux entités, entre ces deux instances. Et c'est à ce moment-là, peut-être dans un troisième moment de cette première partie, que l'élève peut convoquer Descartes et à ce moment-là parvenir à l'idée comment une âme et un corps peuvent-ils communiquer.
Exactement. C'est-à-dire que Descartes, tout en conservant le postulat du dualisme, Descartes montre que un dualisme strict ne permet pas de penser la relation entre l'esprit et le corps. Et c'est dans le texte qu'on a entendu, c'est l'exemple du pilote et de son navire. Hein. Je ne suis pas dans mon corps comme le pilote est dans son navire. C'est-à-dire que je reçois, et ce « je », on sait que pour Descartes, c'est la substance pensante, je reçois de mon corps des informations telles que la douleur, la faim, la soif, etc. Donc il y a une relation de communication entre l'esprit et le corps, et non pas une relation de subordination où l'esprit serait simplement l'instrument au service du corps, comme le bateau, le navire, est l'instrument au service de son pilote.
Je pense que c'est un sujet que je pourrais prendre, oui, parce qu'on peut... C'est un sujet assez large dans lequel on peut placer quand même pas mal de connaissances pas mal de domaines d'étudiants philo en terminale, donc le dualisme, le monisme. J'ai révisé un peu avant de venir quand même.
Ah oui. The body breaks and the body is fine. I'm open to yours and I'm open to mine. The body aches and that ache takes its time. But you'll get over yours and I'll get over mine. And the sun will shine and the moon will rise. Yeah, the body it calls out. It whispers at first, but it ends with a shout. The body burns, yeah, the body burns strong. Until mine is with yours, then mine will burn on. My flesh sings out, it sings, comport me out. Vous écoutez France Culture, c'est le troisième moment d'une semaine spéciale Bac 2016 sur notre antenne et c'est le troisième moment de notre semaine des nouveaux chemins de la connaissance consacrée à l'épreuve de philosophie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Schauder, professeur au lycée Jean Prévost de Montivilliers, qui traite le sujet de dissertation « Mon corps m'appartient-il ?» devant ses élèves de terminale S et ES. A bridge through a hoop or a lake through a ring. The body stays and then the body moves on. And I'd really rather not dwell on when yours will be gone. But within the dark there is a shine, one tiny spark that's yours and mine.
Ce quelque chose qui commande, que le peuple a appelé esprit, veut être maître et se sentir maître en soi et autour de soi. Ses besoins et ses qualités sont les mêmes que ceux reconnus par les physiologistes dans tout ce qui vit, croît et se multiplie. La puissance de l'esprit à s'assimiler les éléments étrangers se révèle par un penchant énergique à rapprocher le nouveau de l'ancien, à simplifier ce qui est multiple, à négliger ou à rejeter ce qui est en contradiction complète. Au service de cette volonté se trouve une tendance, opposée en apparence, de l'esprit, une résolution soudaine d'ignorer, de s'isoler arbitrairement, de fermer ses fenêtres. Une négation interne de telle ou telle chose, une défense de se laisser aborder, une sorte de posture défensive contre beaucoup de choses connaissables, un contentement de l'obscurité, de l'horizon borné, une affirmation et une approbation de l'ignorance. Tout cela est nécessaire, dans la mesure de son pouvoir d'assimilation, de sa force de digestion, au figuré, bien entendu. D'ailleurs, l'esprit ressemble à un estomac plus qu'à toute autre chose. Mais nous autres, ermites et marmottes, nous nous sommes depuis longtemps persuadés, dans le secret de notre conscience d'ermite, que cette digne parade de grands mots fait partie des vieux ornements, de la vieille poussière, des anticailles du mensonge et de l'inconsciente vanité humaine. Retransporter l'homme dans la nature. Faire que désormais l'homme paraisse devant l'homme, comme aujourd'hui déjà, endurci par la discipline de la science. Il paraît devant l'autre nature, avec les yeux intrépides d'un Oedipe et les oreilles bouchées d'un Ulysse, sourd aux appos des oiseleurs métaphysiciens qui lui ont chanté trop longtemps « Tu es davantage, tu viens de plus haut, d'une autre origine. » Nietzsche, par-delà le bien et le mal. Je m'appelle Patrick Bettman et j'ai 27 ans. Je prends grand soin de moi, en mangeant léger et en faisant de l'exercice chaque jour. Au réveil, si je suis légèrement bouffi, j'applique des sachets de glace sur mon visage pendant mes abdos du matin. Je peux en faire 1000. Après avoir ôté le sachet de glace, j'applique une lotion désincrustante. Puis sous la douche, j'utilise tout d'abord un gel moussant.
puis un gommage corps au miel et aux amandes, et un gommage pour le visage. Ensuite, j'applique un masque à la menthe sauvage que je laisse pénétrer 10 minutes. Pendant ce temps-là, je prépare la suite des hostilités. J'utilise toujours un aftershave sans alcool ou avec très peu d'alcool, parce que ça irrite et dessèche la peau, alors vous vieillissez plus vite. Une crème reconstituante, suivie d'une crème contour des yeux, et pour finir, une crème protectrice hydratante. Il existe une image de Patrick Bateman, une sorte d'abstraction. Mais je n'existe pas vraiment. Ce n'est qu'une entité, quelque chose d'illusoire. Et bien que je puisse cacher mon regard froid et que vous puissiez me serrer la main et sentir ma chair s'agripper à la vôtre, vous pourriez vous dire que nos vies sont comparables. Mais je ne suis tout simplement pas là.
Thomas Chaudor, on vient d'entendre un extrait du film American Psycho qui date de l'an 2000. Dans cet extrait, on entend tout le petit rituel qu'établit Patrick Bateman, qui a 27 ans, une sorte de golden boy de Wall Street. On entend tout le soin qu'il apporte à sa peau, à son corps, ce qui est une manière contemporaine de reconduire ce dualisme, cette forme de toute puissance de l'esprit sur le corps, ce que Nietzsche critique dans le texte qu'on a entendu à l'instant lu par Fabien Wolfram juste avant American Psycho. Dans ce texte qui est extrait de Par-delà le bien et le mal, c'est le paragraphe 230, on entend que Nietzsche critique effectivement cette manière pour l'homme de se sentir tout puissant, d'avoir créé ce mythe de l'esprit qui permettrait de contrôler le corps. Est-ce que c'est à ce moment-là, dans cette deuxième partie, que l'élève peut critiquer ce dualisme qu'il avait commencé déjà à nuancer avec Descartes à la fin de sa première partie?
Tout à fait. C'est d'autant plus intéressant que cet extrait, que ce que Descartes avait établi conduisait à une réhabilitation du corps, et notamment à insister sur l'importance de la médecine et sur l'importance de l'amélioration du corps que permettait la science. Et on entend dans cet extrait d'American Psycho, on entend vraiment ce qu'on appelle l'hygiénisme en fait, c'est-à-dire la maîtrise de son propre corps, la maîtrise de son vieillissement, et justement le fait de vouloir nier cette vie autonome du corps dont nous parlions tout à l'heure. Faire du sport, contrôler ce qu'on mange, je dirais contrôler ce qui rentre et ce qui sort, et c'est véritablement un idéal obsessionnel de son propre corps. Et Nietzsche, tout à fait, Nietzsche remet en question complètement cet idéal en disant que au fond c'est une anticaille, comme il le dit, c'est-à-dire une réinterprétation d'un idéal très ancien, en fait, de l'idéal théologique monothéiste de la supériorité de l'esprit sur le corps.
Alors ne perdons pas de vue le sujet qu'on a, à savoir mon corps m'appartient-il? Dans ce cas-là, avec l'exemple de Patrick Bateman, American Psycho, et de Nietzsche, on a d'un côté quelqu'un pour qui le corps est complètement réifié, c'est un objet, il lui appartient, il en fait ce qu'il veut. Néanmoins, on sent bien déjà dans cet extrait que le fait de autant entretenir son corps fait que son corps pourrait lui échapper. Et puis de l'autre, on a Nietzsche qui, lui, veut renoncer en fait à ne serait-ce que à la formulation grammaticale de « mon corps m'appartient-il ». Déjà, dire ça, c'est une manière de faire du corps une sorte d'esclave de son esprit. Est-ce qu'on doit s'en tenir dans cette deuxième partie? Est-ce que l'élève doit s'en tenir dans cette deuxième partie, Thomas Chaudor, à seulement en fait nuancer ce dualisme? Vers quoi peut-il aller?
Il faut nuancer le dualisme, mais je pense aussi il peut aller en direction d'enjeux très contemporains, en fait. On parlait de l'hygiénisme, on peut aussi prendre l'exemple du transhumanisme, c'est-à-dire de cette volonté d'un certain nombre de penseurs de vouloir amener l'homme à dépasser les limites de son corps, telles que la maladie, la vieillesse, etc., y compris même à transférer son esprit dans un ordinateur. Et en fait, ce que Nietzsche nous permet de comprendre très bien, à mon avis, c'est que ce matérialisme, parce qu'on l'appelle comme ça dans le langage ordinaire, au fond n'est rien d'autre qu'un dualisme caché, un dualisme qui ne dit pas son nom, puisque au lieu de faire du corps et de l'esprit une seule et même chose, pris sous deux points de vue différents, ce qu'on appelle non plus le dualisme mais le monisme, hein, esprit et corps sont une seule chose, on conserve une distinction et surtout une volonté de contrôle. Et Nietzsche, vous l'avez très bien dit, Nietzsche dénonce ce qui au fond n'est rien qu'une illusion, il dit même une illusion grammaticale, c'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est qu'on confond le fait de dire deux choses avec le fait que ce soit en réalité deux choses, l'esprit et le corps. Quand je dis « mon corps », je fais une distinction entre le sujet « je », derrière l'adjectif possessif, et l'objet « corps ». Et Nietzsche dénonce non seulement cette manière de prendre au fond le langage pour la réalité, mais il dénonce surtout, il s'efforce que de débusquer, le système de valeurs morales qui se cache derrière cette illusion grammaticale et qui dénigre, c'est l'un des grands enjeux de la pensée nietzschéenne, de dénigrer le corps au profit d'un esprit doté d'un libre arbitre. Et ce que veut faire Nietzsche, c'est d'interroger, comme il le dit, les entrailles de l'esprit, de montrer qu'au fond, la conscience, l'esprit, le libre-arbitre, tout cela, ne sont que des conséquences de fonctions physiologiques, qu'il appelle des pulsions, avant Freud, ou des instincts de vie. Et d'ailleurs, il le dit très bien, il dit « l'esprit ressemble à un estomac » dans l'extrait qu'on a entendu. L'esprit ressemble à un estomac, et par conséquent, Nietzsche, non seulement va dans le sens du monisme, mais il inverse complètement l'idée qu'on se fait d'ordinaire du rapport entre la volonté et le corps.
Au prix, lui aussi, de reconduire en fait une forme de dualisme, c'est-à-dire que derrière l'idée d'une relation entre l'esprit et le corps qui reconduirait une toute-puissance de l'esprit sur le corps, Nietzsche ne fait qu'inverser en fait ce rapport-là, et c'est aussi une des manières d'avancer dans cette deuxième partie, à la fois de dire « je rejette le dualisme, l'esprit et le corps » vont ensemble, sont une même entité, reste à savoir déjà comment ils communiquent, mais néanmoins, avec Nietzsche, je peux retomber dans l'excès inverse, qui est que mon corps va complètement me mobiliser, en fait, ce qu'on entend déjà dans American Psycho, à savoir que, Patrick Bateman, avec son esprit, va trouver un ensemble de remèdes pour contrôler son corps, mais c'est déjà son corps qui est l'enjeu, le mobile qui le guide dans sa vie.
Tout à fait. Je pense à un autre exemple tout à fait contemporain, c'est toute la fièvre alimentaire que nous voyons sur « il faut manger ceci, cela, pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, pas trop d'alcool, etc. etc. » Cet hygiénisme du corps contrôlé complètement parce que mon corps c'est moi. Alors là, il y a quand même déjà cette idée-là, c'est-à-dire que si je mange ceci ou cela, je vais avoir tel effet psychique. Et donc tous les gens, par exemple sur le gluten, les gens qui disent « je me sens mieux, je pense mieux, je suis plus efficace intellectuellement depuis que mon estomac fonctionne mieux ». Et là on est vraiment dans cette perspective nietzschéenne d'une inversion des valeurs. Je pense qu'on pourrait opposer à ce dualisme ou pseudo-dualisme inversé le monisme de Spinoza, par exemple, qui lui est un monisme radical, c'est-à-dire que le corps et l'esprit ne sont réellement que deux manières d'aborder une seule réalité, qui est vraiment la même. Il n'y a qu'une seule substance, la totalité, ou encore Dieu, ou encore la nature, pour Spinoza, une substance infinie. La pensée et le corps sont deux modes de cette substance, autrement dit, deux manières que nous pouvons avoir de concevoir la même chose, qui est l'existence de l'univers tout entier, d'une certaine façon, de notre point de vue à nous, de notre point de vue d'être fini. Et ces deux instances qui interagissent chez Descartes deviennent, au fond, simplement deux manières de voir, deux manières de parler de la même chose.
Donc là, l'élève pourrait parvenir déjà à cette idée, à transformer le sujet qu'il avait, « mon corps m'appartient-il » en « je suis un corps plutôt que j'ai un corps ».
Tout à fait. On est en train de se libérer progressivement, et je pense que c'est ça l'intérêt de ce sujet, nous libérer progressivement de l'idée de la possession, et donc aussi de l'idéal obsessionnel dont je parlais tout à l'heure. Là, du coup, l'élève peut revenir à son expérience personnelle et tout simplement se dire « mais est-ce que
je... » À défaut de connaître parfois Spinoza, Nietzsche, de maîtriser du moins autant de références dans une seule partie.
Tout à fait. Là, pour les besoins de ce cadre-là, on prend beaucoup de références. Ce n'est pas nécessaire d'en avoir autant. Par contre, ce qui est très important, c'est d'avoir un recul sur sa propre expérience. on était parti de l'expérience immédiate, il ne faut pas y rester, mais il faut se dire que même notre expérience, elle est complexe et qu'on peut opposer différents pans de notre propre expérience. Et c'est ça tout l'intérêt aussi d'un sujet très existentiel comme celui-ci. Donc là, l'élève peut se dire, est-ce que c'est ma manière à moi de vivre mon corps et de s'interroger sur comment est-ce que je vis mon propre corps? Est-ce que je le vis comme quelque chose qui est différent de moi? Et au contraire, se rendre compte que non, le destin de son esprit ou le destin de son corps n'est qu'un seul destin, n'est qu'une seule histoire.
Nous sommes habitués, par la tradition cartésienne, à nous déprendre de l'objet. L'attitude réflexive purifie simultanément la notion commune du corps et celle de l'âme, en définissant le corps comme une somme de parties sans intérieur et l'âme comme un être tout présent à lui-même sans distance. L'objet est objet de part en part et la conscience est conscience de part en part. Il y a deux sens et deux sens seulement du mot exister. On existe comme chose ou on existe comme conscience. L'expérience du corps propre, au contraire, nous révèle un mode d'existence ambigu. Si j'essaie de le penser comme un faisceau de processus en troisième personne, vision, motricité, sexualité, je m'aperçois que ces fonctions ne peuvent être liées entre elles et au monde extérieur par des rapports de causalité. Elles sont toutes confusément reprises et impliquées dans un drame unique. Le corps n'est donc pas un objet. Pour la même raison, la conscience que j'en ai n'est pas une pensée, c'est-à-dire que je ne peux pas le décomposer et le recomposer pour en former une idée claire. Son unité est toujours implicite et confuse. Il est toujours autre chose que ce qu'il est, toujours sexualité en même temps que liberté, enraciné dans la nature au moment même où il se transforme par la culture, jamais fermé sur lui-même et jamais dépassé. Qu'il s'agisse du corps d'autrui ou de mon propre corps, je n'ai pas d'autre moyen de connaître le corps humain que de le vivre, c'est-à-dire de reprendre à mon compte le drame qui le traverse et de me confondre avec lui. Je suis donc mon corps, au moins dans toute la mesure où j'ai un acquis. Et réciproquement, mon corps est comme un sujet naturel, comme une esquisse provisoire de mon être total. Maurice de Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception.
Chaudeur, on vient d'entendre, interprété par Fabien Wolfrom, un extrait d'un texte de Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, qui date de 1945. Et dans ce texte, on retrouve cette idée que vous commenciez à amorcer, que l'élève a peut-être déjà commencé à amorcer à la fin de sa deuxième partie, ou du moins dans sa transition, à savoir que l'on est un corps, et comme le dit extrêmement bien Merleau-Ponty, à savoir que le corps et l'esprit vivent un drame unique.
Tout à fait. Et là-dessus, avant même de parler de Merleau-Ponty, on peut encore une fois parler de l'expérience personnelle. Quand je disais que le destin de mon corps, c'est mon destin. Quand une femme attend un enfant, cela l'engage, comme le dit l'expression, corps et âme. Quand on vieillit ou quand on est malade, on se rend compte que nous n'avons pas les mêmes forces, ni physiques, ni intellectuelles. Et qu'en fait, c'est une seule et même chose, encore une fois, et non pas deux choses différentes. En fait, mon corps n'est pas distinct de moi, ce n'est pas un objet du monde. Mon corps, c'est ce que je suis, et quand je vis à la fois le corps et l'âme. Quand je suis angoissé, j'ai mal au ventre. C'est pas seulement spirituel, c'est aussi corporel. Merleau-Ponty va nous dire qu'il ne faut pas dire « mon corps m'appartient », mais dire « je suis ». Mon corps, et peut-être même qu'il faudrait voir à se débarrasser de ce possessif et dire « je suis ce corps » ou « je suis un corps », je ne sais pas trop comment on pourrait le dire. Ce que dit Merleau-Ponty, c'est que ce que m'apprend ce qu'il appelle l'expérience du corps propre, c'est que je suis, comme il le dit, un être en deux feuillets. Je suis à la fois sujet et objet. Ou il le dit aussi, je suis à la fois ce qui touche et ce qui est touché, ce qui voit et ce qui est vu. Et je ne peux pas distinguer ces deux choses, le touchant et le touché, ou le voyant et le vu. C'est une seule et même chose, mais encore une fois, prise de deux points de vue différents. Notre existence, comme il le dit, est ambiguë. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous renvoie non plus seulement à des enjeux de parole, des enjeux de langage. Qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que je dois dire mon corps? Est-ce que je dois dire ce corps? Ça nous renvoie à des enjeux véritablement politiques et moraux qu'on avait annoncés dès l'introduction. Parce que l'existentialisme en règle générale, que ce soit celui de Sartre ou celui de Merleau-Ponty, nous conduit à rejeter la limitation de notre être, hein, le déterminisme, c'est-à-dire le fait d'être limité soit à un pur esprit, soit à un pur corps. Exemple d'être réduit seulement à son corps, le sexisme, le racisme, où là, je ne suis vu par les autres que comme un corps, et non plus comme un tout, comme un drame unique.
Ou qu'à travers des catégories en fait, qui seraient apposées au corps. Et là, on reviendrait en fait, à déconstruire le sujet qui nous pose la question de « mon corps m'appartient-il ?» Mais finalement, est-ce que déjà on peut poser la question d'une appartenance, d'un corps? C'est ce que semble aussi dire Merleau-Ponty, Thomas Schoeder, à savoir qu'il y a une confusion entre le corps et l'esprit, mais même il y a une difficulté à rendre compte de ce drame unique. C'est-à-dire que même il est limite impossible de parler de notre corps. On en vient même à déconstruire le sujet même qui était posé.
Tout à fait. Et cette difficulté, déjà, Nietzsche l'avait pointé du doigt. C'est la distinction grammaticale entre le sujet et l'objet. Est-ce qu'on peut sortir de cette difficulté-là? C'est pas sûr. On ne peut trouver, du coup, que des manières approximatives de parler. Par contre, ce qu'on peut savoir, du coup, c'est en le vivant, nous dit Merleau-Ponty. C'est-à-dire se confondre avec ce drame, hein, se vivre soi-même. Et évidemment, se vivre, il y a quelque chose là-dedans qui est un peu, disons, mystérieux. En tout cas, quelque chose qu'on ne peut pas traduire par le langage là-dedans. Donc, c'est compliqué.
À défaut d'avoir des catégories, du coup, réductrices, comme vous l'évoquiez, à savoir des catégories raciales, racistes, ou de genre, etc.
Tout à fait, tout à fait. Par contre, ça, je le vis. Je peux le vivre en tant que femme, en tant que racisée, en tant que faisant l'objet de la part de l'autre d'un déterminisme à mon corps. Là, je le vis. Là, je ressens une injustice. Et là, du coup, on est dans la morale. Je ressens cette injustice d'être pris pour un corps. Ou alors, on pourrait parler à ce moment-là du concept d'aliénation chez Marx. Quelle est la cause du sentiment de révolte qui est celui du prolétaire? C'est celui d'être aliéné, c'est-à-dire d'être rendu étranger, d'être réduit à sa propre force de travail, qu'il s'agit de déployer au profit d'un capitaliste et qu'il s'agit simplement, c'est le salariat, d'entretenir hein, en dormant, en mangeant, etc. Et je suis réduit à ma force de travail, donc à mon corps. Et toute l'injustice que ressent le prolétaire pour Marx, elle peut être ramenée à ce sentiment-là. Donc même si on n'a pas vu forcément très bien l'œuvre de Merleau-Ponty en terminale. Par contre, surtout en terminale ES, on a parlé même en économie de Marx, et on peut revenir à cet argument-là. Et du coup, cet argument, par contre, pour rester dans l'enjeu éthique, cet argument, il a double tranchant. Parce que dans ce cas-là, on peut dire, mais étant donné que le système salarial est comme ceci, que je dois de toute façon louer ma force de travail, alors louer ses bras ou louer son sexe, c'est exactement la même chose. C'est les arguments des partisans de la prostitution. Hein, que je loue mon sexe, masculin ou féminin, ou que je loue mes bras à l'usine, c'est exactement la même chose. Et dans les deux cas, cela revient à dire, de toute façon, je suis réduit à un corps instrument, et donc il vaut mieux que je sois moi, le décisionnaire, hein, qu'est-ce que j'en fais moi et non pas la victime des désirs de quelqu'un d'autre.
C'est ce que disait Gisèle Halimi d'une certaine manière dans l'archive qu'on a entendu au tout début, à savoir que pour pouvoir devenir sujet, il faut d'abord en fait se revendiquer la possession d'un corps, que notre corps nous appartient, pour aussi pouvoir s'en libérer. Et c'est tout le mouvement dialectique un peu compliqué qu'il s'agit de restituer dans cette troisième partie, à savoir accepter que le corps nous appartient pour aussi en fait s'en détacher, non pas pour continuer à le réifier, mais en fait pour dire que cela ne fait qu'une unité entre mon corps et mon esprit, pour devenir sujet.
Tout à fait. Au fond, c'est une condition nécessaire, mais une condition qui n'est pas suffisante, qu'il s'agit de dépasser. Et Gisèle Halimi le dit, devenir sujet, devenir autonome. Et là, le terme est important. C'est-à-dire que si je n'en passe pas par un libre usage, c'est-à-dire un usage qui dépend de moi et non pas de quelqu'un d'autre, de mon corps, Si je suis réduit à l'objet de quelqu'un d'autre, alors je ne suis pas autonome. Or, si je suis le décisionnaire, je peux du coup m'imposer des règles. Je peux savoir comment faire usage de ce corps sans que cela aille à l'encontre de mes intérêts ou de mon intégrité ou surtout de ma dignité. Et là, on peut faire le lien avec ce que disait d'une certaine façon Kant, avec la notion de respect. Je dois me respecter en tant que sujet. Mais je dois me respecter en tant que sujet conscient, mais aussi en tant que sujet corps. Je dois respecter mon corps, notamment respecter l'intégrité. Je ne dois pas vouloir me faire du mal. Et donc, si pour ça je dois en passer par le fait de ne pas vouloir que quelqu'un d'autre me fasse du mal, alors je dois en passer par là, peut-être. C'est ce que dit Gisèle Halimi.
Comment allez-vous conclure, Thomas Schoeder ? Est-ce que vous abordez aussi peut-être le problème qu'il y a à dire que finalement on a un corps, on est un corps, je suis un corps, mais qu'il y a des limites, que je ne peux pas me faire du mal, et là tout est laissé à l'appréciation du sujet libre, et c'est là où ça peut poser des problèmes.
Tout à fait. Je pense que, étant donné que c'est un sujet polémique et un sujet complexe, il serait peut-être même présomptueux de donner une réponse définitive, qui serait peut-être même une réponse, disons, idéologique ou partisane, de quelque manière que ce soit. Au contraire, laissons le sujet ouvert et laissons-le à la libre appréciation de chacun. Et donc, après avoir fait un bilan, où on rappellera les grandes étapes de cette réflexion, on pourra terminer en disant que, certes, je suis mon corps, mais que cette affirmation est problématique parce qu'elle doit m'inviter en tant que sujet à réfléchir à quelles règles je vais me donner à moi-même, à quelles lois je vais suivre, d'un côté. D'un autre côté, elle aboutit à repenser des éléments de l'économie ou de la politique encore, c'est-à-dire comment est-ce que, à partir du libre usage de mon propre corps, je peux penser une politique, alors que la politique c'est quand même l'art du contrôle des corps, comment est-ce que je peux penser une politique qui laisserait chacun libre de son corps ? Et est-ce que ce n'est pas même contradictoire avec l'idée même de politique ? Comment est-ce que, par exemple, je peux passer, comme le disait Gilles Châtelet dans Vivre et penser comme des porcs, comment je peux passer du chiffre au nombre ? C'est-à-dire comment je peux passer du corps individuel au corps politique ? Et ce, dans un cadre que le nombre se fixe à lui-même et non pas dans un cadre qu'on va m'imposer, où on va tous marcher au pas de loi les uns derrière les autres et nous ne sommes plus libres. Et ça, c'est un problème et je pense qu'il est beaucoup plus intéressant pour l'élève de laisser ce problème ouvert plutôt que de lui apporter une réponse qui serait nécessairement, partielle.
Donc dans la conclusion, l'élève doit récapituler ce qu'il a fait et laisser une ouverture. Est-ce que il doit prendre parti d'une certaine manière ? À quel moment l'élève prend parti ? Est-ce que c'est dans l'organisation de son propos ou est-ce que c'est peut-être aussi dans la conclusion qui va laisser advenir quelque chose de plus personnel d'une expérience de laquelle il était sûrement parti avec un tel sujet dans son introduction ?
Alors, il n'y a pas de règle absolue, disons. Je pense qu'il faut qu'il donne son avis. Est-ce qu'il va le donner en conclusion ? Il le peut. Est-ce qu'il va le donner dans le développement ? C'est encore mieux. Et surtout qu'il donne plusieurs avis.
Alors comment donner son avis ? Parce que ce terme-là d'avis, il est un petit peu piégeux.
Tout à fait. Je pense qu'il faut qu'il s'interroge lui-même, qu'il se demande quelle relation il entretient avec son propre corps. Et qu'il parte de la réponse la plus évidente, qu'il le verra en première partie, et puis voilà, au brouillon, dès le début, qu'il note les différents aspects qu'il peut sentir en lui et qu'il doit voir, qu'ils sont parfois contradictoires. Ensuite, il va pouvoir les examiner un par un. Je dirais que il peut même aller jusqu'à soutenir, à un moment du développement, un point de vue avec lequel il n'est pas du tout d'accord, que ce soit au début, au milieu, à la fin. Ce n'est pas du tout interdit, puisqu'il s'agit de prendre de la distance par rapport à sa propre expérience et avoir un regard critique sur le sujet, donc sur le monde, mais aussi sur soi-même. Et c'est ça aussi qui fait l'intérêt non seulement de la dissertation, mais de la philosophie en règle générale.
Merci beaucoup Thomas Schauder d'être venu pour nous traiter ce sujet « Mon corps m'appartient-il ?» Et puis merci à vos élèves qui ont participé au début de l'émission et vous pouvez aussi applaudir votre professeur.
Merci beaucoup.
On se retrouve demain pour la suite et la fin de notre semaine consacrée à la révision du bac philo. Et demain, une explication de texte, un extrait du monde comme volonté et comme représentation, expliqué par Clémentine Gourdon, professeure au lycée en forêt de Montargis. Et si vous souhaitez réécouter cette émission et celle de janvier que nous avions déjà consacrée aux révisions du bac philo, rendez-vous sur le site de France Culture à la page Nouveau Chemin. Vous pourrez non seulement les écouter en ligne, mais aussi les télécharger, les podcaster et y trouver toutes les références bibliographiques et musicales. Rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour. Et comme c'est une semaine spéciale Bac 2016 sur France Culture, vous avez aussi rendez-vous à 15h avec Mathieu Garrigou-Lagrange pour les lettres dans la compagnie des auteurs, à 16h pour les sciences et demain matin à 9h avec Emmanuel Laurentin pour l'histoire dans la fabrique de l'histoire, bien sûr. Et j'en profite aussi pour annoncer la 12e édition du Festival du Mot qui commence aujourd'hui à la Charité-sur-Loire avec Alain Rey comme président. Vous trouverez les informations sur le site des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Vous écoutez France Culture, il est 10h54, c'est-à-dire l'heure de retrouver Christophe Onodibio pour le temps des libraires, suivi à 11h de Culture Monde par Florian Delorme.